Pourquoi la démocratie n'est pas immunisée contre le fascisme? Cela ne semble plus vraiment faire de doute, et les paroles se libèrent, profitons-en. Plus de doute que la démocratie et le fascisme puissent caractériser un même monde, plus de doute non plus que libéralisme économique et fascisme puissent se chauffer du même bois, bien sûr. Il faut ajouter immédiatement démocratie formelle et fascisme. En effet, on vote aux États-Unis, on vote en Israël, on vote même en Russie, on vote aussi en France, mais on votait aussi dans l'Allemagne de la République de Weimar lorsqu'Adolf Hitler fut nommé chancelier. Par ailleurs, ne dit-on pas, à commencer par la France, que les populations en ont marre de voter, d'élire celles et ceux dont elles ont le sentiment qu'ils et elles ne les représentent pas une fois élus. Et par conséquent, dans l'esprit de bien des représentants, si le peuple est fatigué de voter, alors il faut le doper, mener des campagnes de propagande toujours plus agressives, souvent mensongères, arracher les bulletins de vote de citoyennes et citoyens tentés de renoncer. C'est que la démocratie formelle a vécu, tout comme l'idéologie qui l'a portée. Que l'on songe au champ lexical de la démocratie, tout simplement. On s'exprimerait par le vote, en offrant sa voix, mais qui a le sentiment d'exprimer quoi que ce soit aujourd'hui? Qui éprouve le fait de donner de la voix lorsqu'il glisse son bulletin dans l'urne? Ou encore, qui éprouve le sentiment qu'en donnant sa voix, il sera représenté en dehors de celles et de ceux qui, justement, ont déjà voix au chapitre et par conséquent sont de connivence avec l'ensemble des candidats au pouvoir? Ainsi, la démocratie formelle apparaît comme si elle était devenue sa propre fin, comme si le jeu du vote et de la représentation qui en émane signifiait la fin de l'histoire. Il suffirait que vote il y ait pour qu'existe une démocratie, et bientôt pour que tout ce qui émane de l'exécutif soit légitime et autorisé, à l'image du spectacle auquel l'on assiste dans ces grandes démocraties, à commencer par les États-Unis où la séparation des pouvoirs semble vaciller, quand les nominations aux postes clés petit à petit contribuent à ronger l'ensemble de ce qui permet de limiter, en théorie, l'accumulation de pouvoir, ce qui n'est pas a priori la moindre des caractéristiques de la démocratie. Le démocrate se devrait, en effet, de renoncer à toute velléité d'accumulation de pouvoir, à respecter par conséquent ses opposants qui sont la condition de sa légitimité. Mais voyons l'état de nos parlements. Voyons dans quel état de ruine dialogique se trouvent certaines de nos chambres de délibération. On y ment. On s'y insulte, on y règle ses comptes, on n'y cesse jamais de préparer le terrain de futurs combats électoraux. Bientôt, c'est la brutalité qui fait office de loi, quand l'étiquette seule semble pouvoir imposer le respect dû à l'histoire. Certes, reconnaissons qu'il y a crise. Mais il faut attirer l'attention, une fois encore, sur le fait que les démocraties modernes ne se sont jamais émancipées de l'autorité de la classe qui les a fait naître, et les peuples sont demeurés sous l'autorité de la bourgeoisie. C'est la raison pour laquelle aucune de ces démocraties n'est en mesure de s'émanciper, par exemple, d'un système économique dévastateur, dont la finalité consiste précisément en l'accumulation de pouvoir. Les démocraties sont maintenues en état de minorité, comme l'on maintient des parties entières de la population également en état de minorité. Cela sert grassement, au passage, les intérêts des partis conservateurs et d'extrême droite qui ont beau jeu de faire du chiffre et d'engranger quelques victoires électorales sur la crise de la souveraineté nationale, mise en déroute parfois par l'étranger qui passe, l'étrangère éternelle à d'autres moments, en d'autres endroits. Pourtant, ce ne sont pas ces étrangers tout désignés, parfois des plus vulnérables, qui maintiennent dans leur cage de fer les démocraties à l'état de minorité, car ce sont en premier lieu des intérêts économiques de la bourgeoisie qui fondent cet enfermement idéologique et politique. Les Français, par exemple, ne peuvent pas décider de fabriquer des objets de consommation courante qui ne soient pas soumis au principe de la marchandise, sans subir les chantages les plus extrêmes. Ainsi, contrevenir aux prérogatives et aux règles de l'OMC, c'est risquer la mort, prendre le risque de sombrer dans le désastre d'une crise économique sans fond, etc. Voilà précisément un exemple qui fait que nos démocraties sont maintenues en état de minorité. Un exemple de cette dépendance totale des démocraties modernes, bourgeoises, au rapport de production capitaliste. La moindre mesure sociale est soumise à l'appréciation des marchés, nous l'observons chaque jour qui passe. Or, le capitalisme ne se nourrissant que d'accumulation de pouvoir, l'emprise de cette économie sur les régulations politiques et sociales est également sans fin. Alors, le fascisme, dans sa version la plus générique qui soit, ne saurait être pensé comme un épiphénomène ou un accident de l'histoire des démocraties. Il se présente plutôt comme l'expression de la haine la plus farouche de toute expression populaire et authentiquement démocratique, visant à s'émanciper de la férule du système économique qui se nourrit de réduire au même état de marchandises, de cette valeur abstraite, tout ce qui existe. D'où cette méprise perpétuelle de celles et de ceux qui nous gouvernent. Qu'elles ou ils soient de droite ou de gauche, pour des électeurs qu'ils jugent immatures dès lors qu'ils réclament qu'une politique ne soit pas soumise ni adossée au principe de la marchandise. Par conséquent, nous sommes solidaires de la pensée de Max Horkheimer affirmant que, je cite, « celui qui ne veut pas parler du capitalisme devrait aussi se taire sur le fascisme ». Et invitons tous les démocrates qui entendent aujourd'hui engager la lutte contre le fascisme à engager du même pas la lutte contre le capitalisme et à imaginer que puissent exister des sociétés qui ne soient pas sous la tutelle de rapports marchands.